L'Exode, le chapitre, au début du chapitre 5, la fin du chapitre 4. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité de la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de ma louange. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. »
Pour continuer, je vous propose donc la deuxième partie de ces trois prédications sur le thème du Temple de Jérusalem ou la révélation progressive de Dieu. En avril, je vous avais parlé de l'histoire biblique d'Abraham à Moïse et ce matin, je voudrais vous parler de Josué à la royauté, aux différents rois d'Israël. Ce que j'ai trouvé extraordinaire en préparant ces prédications, c'est qu'il y avait toujours un lien quand même avec le culte précédent. La première fois, c'était Bernard Dufour qui nous avait parlé aussi du temple de Jérusalem, aussi d'Israël. Et puis, il y a deux semaines, c'est Sylvain Dupertuis qui nous a parlé donc de Jésus dans le cadre de Marc, de l'évangile de Marc. Mais il a aussi fait des rappels par rapport à Jésus et le temple, le rôle du temple à l'époque de Jésus. Dans la première prédication, pour rappel, d'Abraham à Moïse, nous avons ces trois réalités, ces trois révélations de Dieu, qui étaient un Dieu, une terre et un peuple. De Josué à la royauté, c'est donc par Moïse que le peuple d'Israël va sortir d'Égypte et il va marcher 40 ans dans le désert. Malheureusement pour Moïse, celui-ci va mourir avant de connaître la terre promise et c'est Josué qui va conquérir le pays de Canaan. Après la conquête de Canaan, va s'en suivre une période qu'on appelle la période des juges, qui verra plusieurs héros se succéder comme Samson, Gédéon, etc. Cette période se situe à peu près 1150 avant Jésus-Christ. Cessant d'être une minorité opprimée et errante, Israël va vraiment devenir une nation qui va rentrer dans l'histoire. En effet, après la conquête de Canaan par Josué et les batailles qui vont s'en suivre, avec les Cananéens, mais surtout les Philistins, la structure patriarcale par les patriarches et tribale par les douze tribus vont alors fixer le cadre de la nation d'Israël et les tribus vont rapidement prendre leur indépendance sur le plan militaire, politique, mais aussi sur le plan spirituel. On va juste voir une carte qui va vous rappeler donc la carte de gauche vous rappelle les 12 tribus d'Israël, comment elles s'étaient mises sur la répartition du territoire. Donc tout au sud, c'est Juda avec Siméon au milieu, et ensuite tout au nord, il y a Manassé. Donc ça prend de la mer jusqu'à la mer morte. Cette période des juges, elle est l'une des périodes les plus instables de l'histoire juive, où elle commence par la mort de Josué et se termine par l'instauration de la royauté. Sur le plan spirituel, c'est aussi la confusion et le compromis avec des ruptures de l'alliance, avec le seul vrai Dieu et l'adoration d'autres dieux et d'autres idoles. Justement comme Baal, qui est un dieu des Cananéens. Ce sera le début du syncrétisme et le mélange des genres avec le mariage des Hébreux avec des peuples voisins. On voit petit à petit l'infidélité du peuple d'Israël vis-à-vis de Dieu et sera comme conséquence son malheur. Et comme vous le savez, il y aura ce cycle perpétuel dans l'histoire d'Israël qu'on appellera le cycle de l'idolâtrie. En effet, premièrement, les Hébreux vont adorer d'autres divinités. Ensuite, par conséquence, Dieu va les livrer à leurs ennemis, à leurs voisins remuants. Troisièmement, les Hébreux vont être opprimés et vont crier à Dieu. Ils vont demander du secours. Et quatrièmement, Dieu va les exaucer, va intervenir, va les sauver et va leur assurer pendant quelques années un répit. Et ensuite, ce cycle va recommencer. Et ce cycle de l'idolâtrie sera constant dans les différentes histoires de la Bible. Le dernier des juges qui va s'efforcer d'enrayer cette crise politique et spirituelle, c'est Samuel. Ce sera un nouveau type d'homme, à la fois prêtre, puisqu'il était lévite, et prophète. Il sera l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Mais l'insécurité est là, le peuple a peur, et il a malgré tout besoin d'être rassuré. Les Hébreux n'ont plus confiance en leur Dieu, en ceux qui aussi les dirigent, et ils veulent un roi comme toutes les autres nations. Je vous propose une lecture dans 1 Samuel 8, les versets 6 à 9, et j'invite Bernard à pouvoir le lire. Donc, 1 Samuel, chapitre 8, les versets 6 à 9.
Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger ». Et Samuel pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. »
Vers 1050 avant Jésus-Christ, les Hébreux vont donc avoir un roi, bien que ce n'était pas la volonté initiale de Dieu. Pour Samuel, le principe même de la royauté était anti-théocratique et aussi anti-démocratique. Le système patriarcal et le système des tribus avaient suscité des institutions qui garantissaient une grande liberté et même de la démocratie, qui offre bien des points de ressemblance aux futures institutions de la démocratie grecque athénienne. Je voudrais m'arrêter simplement sur ce point pour rappeler aussi que malgré notre incrédulité, nos désobéissances, notre égoïsme, nos infidélités, Dieu, dans son amour, ne cesse de trouver des stratégies pour venir nous rejoindre, pour nous aider, pour nous sauver. En effet, ce n'était pas la volonté de Dieu que son peuple ait un homme sur que le peuple ait un homme qui règne sur lui, puisque Dieu leur suffisait. Et pourtant, par amour, il accepta et transforma même ce qui était négatif en positif, parce que nous savons que c'est à travers la royauté d'un homme que va venir le Messie, qui est Jésus-Christ. On va encore lire Matthieu, dans Matthieu, le chapitre 1, les versets 20 à 21, pour nous rappeler l'importance justement de ce Jésus, Messie.
Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Voilà Jésus, issu de la dynastie de David. Rappelons-nous de la réalité dans notre propre histoire, dans notre propre vie. Il n'y a pas de fatalité, car Dieu peut transformer toute chose pour sa gloire, malgré nos péchés. J'aime bien une expression que Philippe Morel utilise pour parler de la grâce de Dieu, c'est que Dieu est injuste avec lui-même. Et je trouve que c'est juste ça. Dieu est injuste avec lui-même, et c'est ce qu'on peut appeler la grâce de Dieu, parce que la justice de Dieu passe aussi par quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. À nouveau, comme je vous l'ai dit il y a un mois, il est important d'arrêter de voir dans ce Dieu, de ce qu'on appelle le Dieu de l'Ancien Testament, un Dieu sévère, un Dieu dur, un Dieu persécuteur. Ce même Dieu de la grâce qui nous a accordé Jésus-Christ, on le retrouve dans tous les écrits et dans l'Ancien Testament également. C'est un Dieu qui ne cesse d'implorer l'amour des hommes. C'est un Dieu qui cherche hommes et femmes. C'est un Dieu d'alliance et qui cherche toujours à conserver cette alliance. C'est un Dieu tendre et compatissant. Ainsi, en moins d'un siècle, trois rois vont se succéder successivement. Le premier roi, c'est Saül. Ensuite, on verra David. Et troisièmement, ce sera Salomon. Saül va établir la royauté. David va le renforcer. Et Salomon aura le royaume le plus éclatant jamais égalé. Comme j'ai des idées fixes, je vous donne encore une dernière image du roi David, peint par Chagall. David sera le roi le plus célèbre pour le judaïsme, mais aussi pour le christianisme, comme j'ai dit, puisque c'est à travers David que Jésus sera aussi dans la lignée messianique. David arriva par son charisme à unifier le pays autour de lui, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, et ce qui n'était pas facile. Ensuite, il fallait trouver une capitale qui ne fût d'aucune tribu. Conquise par les troupes de David, Jérusalem allait répondre rapidement à ce besoin d'extraterritorialité. Sa situation géographique, sa position centrale et ses traditions historiques vont lui conférer beaucoup d'avantages. Et ainsi, David va y amener l'Arche de l'Alliance et élever à Jérusalem et élever Jérusalem en tant que grande métropole religieuse pour tous les siècles qui suivront, et on le voit encore jusqu'à maintenant. Aucune ville n'aura autant de convoitises, siècle après siècle. Avec David, il n'y aura plus qu'une seule nation, la nation d'Israël. Le territoire sera le grand Israël, et à nouveau, il n'y aura jamais eu un pays aussi large. Il s'étend de l'Égypte à la Babylonie. On va revoir la carte, cette fois-ci la carte à droite, où on voit le territoire du grand Israël. C'est à nouveau par sa grâce que Dieu va prouver que rien n'est impossible à Dieu. Vous connaissez cette histoire, c'est d'une relation en premier lieu, une relation d'adultère, que Salomon va naître, puisque David va convoiter Bathsheba, la femme d'Ouri, et qui deviendra donc sa femme, et ils auront deux enfants. Le premier enfant mourra, mais le deuxième enfant sera Salomon. Ce sera sous Salomon que la royauté aura tout son éclat et sera une grande puissance économique. Sa réalisation la plus remarquable et la plus durable sera l'édification du temple de Jérusalem. Elle va durer 7 années et concourir non seulement à la gloire de Salomon, mais à la gloire de Dieu. La construction du temple marquera une étape extrêmement importante dans l'histoire d'Israël. On avait vu que c'était le tabernacle qui représentait, qui contenait la présence de Dieu dans le désert pour le peuple d'Israël. Et maintenant, Dieu aura une nouvelle résidence terrestre au sein de son peuple, qui ne sera plus mobile, mais fixe sur la terre promise, à un endroit précis, à Jérusalem. Les nations environnantes, on le voit dans l'histoire, avaient aussi leur temple. Mais ce temple est différent. C'est un temple où on vient célébrer un seul Dieu. C'est un Dieu personnel qui agit dans l'histoire. Et c'est aussi un culte sans image, sans statue, représentant Dieu. Évidemment, le temple abritait l'Arche de l'Alliance et prolonge ainsi l'ancien lieu du culte central des tribus d'Israël. La transition entre une confédération des tribus et la royauté passe aussi par le temple de Jérusalem. Ce lieu sera le lieu de rencontre entre cet immense Dieu, ce Dieu de l'univers et les hommes. Ce Dieu va habiter dans un petit volume construit par les hommes. Ce lieu sera la rencontre entre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et le peuple d'Israël. Nous allons lire un dernier texte, justement, qui concerne cette construction dans 1 Roi, le chapitre 8, les versets 2 à 5 et les versets 10 à 14. 1 Roi 8, les versets 2 à 5 et 10 à 14.
Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent devant l'arche Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, « L'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout.
Alors c'est vrai que, comme je vous l'avais dit, la lecture de ces textes, je les connaissais, mais le fait d'être allé en Israël l'été passé, de voir ce mur, qui n'est donc pas le mur du temple, mais le mur de l'esplanade, et de se dire, voilà, quelque part, il y avait ce lieu très saint, ça donne un sentiment assez particulier à la visite de Jérusalem, à la visite de ces lieux. L'emplacement du temple était important. C'était le point le plus élevé de Jérusalem, le mont Morija, lieu du sacrifice d'Isaac par Abraham. Lieu prophétique qui verra les sacrifices pour le pardon des péchés des enfants de la descendance. Vous vous rappelez de ce petit croquis où on voit donc le mont Morija, où Abraham était là avec Isaac, et au même lieu va se construire le temple de Jérusalem. De ce temple, ou premier temple, aucun vestige n'a été identifié par l'archéologie contemporaine. Ce temple comportait trois pièces en enfilade. La première partie, c'est le portique. Ensuite, vous aviez le saint, ou la demeure. Et le troisième, c'est le saint des saints. C'est la partie la plus sacrée où reposait justement, comme on l'a dit, l'arche de l'Alliance. Quant à l'autel des holocaustes, en fait, il n'était pas dans le temple, mais il était devant le temple. Et on va le voir sur un petit croquis. Donc on voit en fait le lieu du sacrifice, et on voit donc le vestibule ou le portique, le saint ou la demeure, et aussi le lieu très saint avec l'arche de l'Alliance. Et sur un autre croquis, on voit ça en trois dimensions. Le temple est donc le siège de la présence de Dieu. Je trouve que ça donne, deux millénaires après, ça donne un petit peu le vertige de se dire, voilà, Dieu était dans un lieu fermé. Évidemment, il était partout, mais pour le peuple d'Israël, c'était un endroit très particulier. On pouvait y accéder qu'une seule fois par année. C'était la maison de Dieu. Ce temple aura une place centrale dans toute la vie d'Israël, de Salomon jusqu'à maintenant pour les Juifs. Je voudrais m'arrêter un moment sur ce concept de la présence de Dieu. Le temple était le lieu où les hommes pouvaient rencontrer le seul vrai Dieu. Cette dévotion s'exprimera à travers les psaumes où on y vient de tout le pays en pèlerinage pour vivre la présence de Dieu et sera aussi ouverte aux nations non juives. Et ça, c'est quelque chose déjà de prophétique et de très important. C'était pas un lieu que pour les juifs. Les prophètes seront témoins de ce lieu saint. Vous vous rappelez peut-être que c'est dans le temple que Ésaïe aura sa révélation et son appel. Malheureusement, avec les années et les siècles, l'attachement au temple tournera à la superstition, au légalisme, et tout cela sera dénoncé par beaucoup de prophètes, dont Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Nous savons qu'en Jésus, nous avons la présence de Dieu dans nos vies sans nous déplacer. Nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem pour rencontrer Dieu, puisque Jésus a tout accompli sur la croix. Il est ressuscité des morts. Ensuite, il s'est élevé à l'ascension. Nous allons fêter ça dans quelques jours. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que la présence de Dieu soit dans nos vies. Je voudrais simplement qu'on s'arrête un tout petit moment au courant de cette prédication, simplement pour réfléchir à deux questions. La première question, c'est de savoir comment est-ce que vous imaginez cette incroyable présence de Dieu dans ce temple, dans ce lieu très saint. Comment est-ce que vous arrivez à l'imaginer? Et ma deuxième question serait, Est-ce que vous arrivez à vivre la présence de Dieu dans votre quotidien? Et comment est-ce que vous arrivez à vivre cette présence de Dieu? Première question, c'est comment est-ce que vous imaginez ce que la présence de Dieu était dans ce lieu saint, lieu très saint, et comment est-ce que vous vivez la présence de Dieu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit? Donc je voudrais avoir simplement un tout petit moment où il y aura les musiciens qui vont donner une petite mélodie, nous n'allons pas chanter, mais le but c'est simplement d'avoir un temps de méditation par rapport à cette question, par rapport à la présence de Dieu. Comment est-ce que vous vivez la présence de Dieu dans le quotidien de votre vie? Est-ce que vous la vivez? Est-ce que vous avez envie de la vivre? On aura 2-3 minutes de réflexion, de méditation, et ensuite, si une ou deux personnes voudront donner simplement un très court témoignage de peut-être quelque chose qu'ils ont vécu ces dernières semaines, de la présence de Dieu, eh bien, je les inviterai à venir ici, simplement donner un témoignage pour nous édifier les uns les autres. Le culte, ce n'est pas juste une personne qui parle, ou une, deux ou trois. Nous sommes tous là à avoir besoin d'être édifiés par nos témoignages vivants, parce que Jésus est vivant et il agit dans nos vies. Vers 930, Salomon va mourir et le fils de Salomon, Roboam, sera contesté. Et ce sera le conflit ouvert pour régner sur le peuple d'Israël. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva, division, séparation et schisme, et vous savez que le royaume uni va s'effondrer et va voir naître deux pays, deux royaumes, le royaume du nord qu'on appellera Israël et le royaume du sud qui sera Juda. Ce royaume du sud, ce sera Juda et Benjamin, aura pour capitale Jérusalem avec son temple, alors que le royaume du nord va avoir une nouvelle capitale, ce sera la Samarie. Et on va revoir encore une dernière carte, c'est la carte du royaume du Nord et du Sud, où on voit qu'il y a une division, et c'est le début du déclin. Va s'en suivre une période de grande instabilité spirituelle et politique, où on va voir ces deux États, qui vont avoir deux histoires différentes, et pourtant ils sont dans la même histoire. Le royaume du Nord va être détruit en 721 ou 722 par les Assyriens, alors que le royaume du Sud va encore survivre 150 ans, pour être détruit en 586 par la prise de Jérusalem et la destruction du Temple. Ces deux événements seront deux événements extrêmement importants pour l'histoire du peuple juif. Du royaume du Nord, 10 tribus vont disparaître tout d'un coup de la scène politique et cette population va être déportée pour que des Assyriens puissent habiter aussi sur le territoire du royaume du Nord. Et ça va faire un mélange d'où vont venir donc les Samaritains. Et les Samaritains seront une ethnie qui ne sera pas bien vue par les Juifs, pour cette raison, en raison de ce côté de mélange. Et les Samaritains, on le voit dans l'histoire de Jésus, ils auront aussi toute leur place. Quant aux survivants d'Israël, ils vont essayer de se rattacher, ceux qui vont rester sur le territoire de la Judée vont se rattacher au sud et vont essayer de se tenir les coudes. Mais malheureusement, il y aura une succession de rois aussi incompétents les uns que les autres ou souvent infidèles et il y aura le déclin gentiment de Juda. Il y aura plusieurs avertissements de différents prophètes comme Ésaïe et Jérémie et le temple sera gentiment pris entre deux feux, entre les Égyptiens et les Babyloniens. Et Jérusalem va donc tomber en 586. C'est juillet-août 586 et c'est une date extrêmement importante pour les Juifs parce que ce sera une date de deuil national où les Juifs l'ont observé jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai que certains, il y a un courant depuis 1967 avec la prise de Jérusalem, il y a un courant d'opinion qui s'interroge sur l'utilité d'avoir ce deuil national. C'est donc la première destruction du temple de Jérusalem. Et avec la destruction du temple de Jérusalem, il va s'en suivre une période où les Juifs vont être déportés dans différents lieux autour de la Judée. Et ce fait qu'ils soient déportés va faire en sorte que les Juifs auront ce qu'on appelle diaspora. Il y aura plus de temple. Et vu qu'il y a plus de temple, les Juifs doivent aussi reconstruire quelque chose pour essayer de trouver une cohésion. Et c'est le début des synagogues. Je vais rapidement vous donner juste deux tableaux pour retrouver certains éléments qui me semblent être importants. Simplement, donc vous avez la division du royaume du Nord et du Sud. Donc la division du royaume du Nord et du Sud avec les deux rois. Donc ça, c'est à peu près 933. Et ensuite, vous avez la prise de Samarie et la fin du royaume du Nord en 722. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand on lit les prophètes, c'est qu'il y a des prophètes qui ont été pour Juda et des prophètes qui ont été pour Israël. Et donc, on avait des prophètes comme Ésaïe ou comme Jérémie. Et là, on voit aussi donc Jérémie et Habacuc qui étaient des prophètes vraiment de Juda. C'est vrai que quand on lit les textes des différents prophètes, on voit que c'est assez confus. On ne sait pas sur quoi ils prophétisent, mais c'est important de pouvoir retrouver qu'il y avait des choses historiques. Et donc, en 587, la destruction du premier temple, qui avait été bien prophétisée bien des années par Ésaïe et par Jérémie. Mais malheureusement, le temple sera donc détruit. Pour terminer, je voudrais vous laisser deux versets. Le premier verset, c'est justement tiré d'Ésaïe. Ce n'est pas un reproche, mais c'est un appel de Dieu qu'il a dit à son peuple, mais qui nous le dit encore ce matin. Dans Ésaïe 17, on trouve ce verset, « Car tu as oublié le Dieu qui t'a sauvé, et tu ne t'es pas souvenu du rocher qui faisait ta force. » Un appel. C'est un appel que Dieu a lancé à travers les prophètes à son peuple. À ce peuple qui a vu tellement de prodiges, a vu tellement la main de Dieu et pourtant il l'a oublié. Et peut-être que ce matin Dieu vous le dit aussi. Vous avez oublié votre Dieu qui vous a sauvé et vous demande de revenir à lui. Malheureusement, on voit aussi donc, comme je vous ai dit, ces prophéties vont se réaliser et Jérusalem va tomber. Malgré tout, Ésaïe, donc bien des siècles avant déjà la destruction, va annoncer que non seulement il y aura la destruction, mais il y aura aussi la reconstruction de ce temple. Et cela va passer par Cyrus, le roi perse, qui va s'emparer de Babylone et libérer le peuple juif, qui était donc déporté en Babylonie. Mais aussi, Ésaïe nous prévient qu'il y aura aussi un autre libérateur. Le serviteur de l'Éternel, ce tout autre, ce Messie, Jésus-Christ, qui a été prédit dans Ésaïe 53. Et je voudrais vous laisser ce verset. C'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Donc avant la destruction du temple, Ésaïe prophétise qu'il y aura cette destruction du temple. Avant qu'elle soit détruite, il prophétise qu'elle soit reconstruite. Mais non seulement elle sera reconstruite, mais il prophétise qu'il y aura un libérateur, non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations. Et ça, c'est 600, 700 ans avant que Jésus-Christ vienne. Je trouve ça extraordinaire. Et malheureusement, beaucoup de Juifs, ils se concentrent sur les 5 premiers livres de la Bible et ils ont de la peine avec certains prophètes. Parce que c'est difficile, en effet, de lire Ésaïe 53 sans voir dans Ésaïe 53 Jésus-Christ, mort pour chacun d'entre nous. Eh bien, que ce Dieu qui a cherché son peuple et qui vous cherche encore ce matin puisse vous trouver et que vous receviez sa présence en Jésus-Christ. Amen.
Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai Je chanterai.